Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Cette prédication fait suite à celle qu'on a faite il y a 2 semaines ou 3 semaines concernant la grandeur de Dieu. Nous avons dit que Dieu était grand, tout puissant, et c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et les cieux et la terre témoignent de sa grandeur quand on voit le soleil, tout en sachant que le soleil ne fait que partie des milliards et des milliards d'étoiles. Donc quand on voit tout ça, on voit la lune, les étoiles, la terre, les eaux, les montagnes. On ne peut que réaliser la grandeur de Dieu quand on voit la lumière, les capacités de la lumière, l'air qu'on respire. Et c'est ce même composant, c'est toujours l'air qui porte les avions. Quand on voit tout ça, on voit la grandeur de Dieu. Quand on voit la beauté humaine, on voit la grandeur de Dieu. Et quand on mange les fruits, on expérimente la grandeur de Dieu. Et il est écrit dans Romains 1, 18 que les gens qui ne croient pas en Dieu sont de mauvaise foi. Ils sont méchants. Ils ne veulent pas accepter l'évidence. C'est pourquoi la Bible commence par le verset « Au commencement, Dieu a créé. » Donc Dieu n'explique pas sa réalité. Il considère qu'il est évident. Lui, Dieu, il est évident. C'est pourquoi la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa. » Donc la Bible n'explique pas Dieu. Présente Dieu directement. Parce que c'est évident de comprendre que Dieu existe. C'est pourquoi les gens qui refusent Dieu, en réalité, c'est de la mauvaise foi. C'est ce qui est écrit dans Romains 1, 18. Ils cachent injustement la vérité que Dieu existe. Mais sa puissance est manifeste. Et Dieu a envoyé son propre fils, Jésus, pour démontrer que lui, Dieu, existait à travers plusieurs miracles que Jésus a accomplis. Il a montré qu'il était réellement fils de Dieu, Dieu. Et que tout avait été créé par lui. Jésus, face à un aveugle de naissance, il a pris sa salive, il a fait avec de la terre une sorte de pâte de boue qu'il a introduit dans les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a retrouvé la vue. Un tel miracle. Donc à partir de la saleté, à partir de la boue qu'on met dans les yeux et l'aveugle peut voir. Jésus-Christ a multiplié les pains. Il a calmé la tempête. Il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Et il voulait montrer par là que Dieu est grand et je suis son fils. Donc plusieurs miracles. Jésus a ressuscité Lazare. Il a dit à Lazare, sors du tombeau. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Il a manifesté la grandeur de Dieu. Donc Dieu manifeste sa grandeur à travers sa création, à travers les miracles et les prodiges qu'il accomplit à travers, par ses serviteurs et par son propre fils Jésus. Dieu manifeste sa grandeur. Et on avait expliqué que puisque Dieu est grand, nous devons être prêt à tout lui demander, à marcher dans cet esprit-là que Dieu est grand et à accomplir sa mission. Dieu est grand, donc nous on est petits. Première chose, on reconnaît notre péché, notre faiblesse. Deuxième chose, on met notre foi en Dieu. Il va nous sauver de nos péchés, il va nous sauver de la maladie, il va nous sauver de la déchéance humaine, parce que l'humanité est dans la déchéance. Dieu va nous sauver de tout ça. Il nous a promis que le dernier jour, il nous ressuscitera. Et troisièmement, puisque Dieu est grand, nous allons le servir. C'est ça qui a été notre conclusion. Mais nous voulons continuer à expliquer, à parler de la grandeur de Dieu et du point maximum où il a manifesté sa grandeur. Nous lisons donc dans Matthieu 12, au verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Donc c'est un message pour tous ceux qui veulent cantonner la grandeur de Dieu au miracle. Donc on a dit, Dieu était grand par sa création, c'est visible, c'est évident. Mais il a fait aussi des prodiges, des miracles. Lorsqu'on voit David qui triomphe de Goliath, lorsqu'on voit les amis de Daniel entrer dans la fournaise ardente, en ressortir indemne, sans même l'odeur de la fumée. Dieu a fait beaucoup de prodiges. Mais il y a un plus grand prodige qui va accomplir, qui va marquer une victoire totale. Parce qu'il faut sa victoire totale sur terre, parce qu'il faut savoir que même si Dieu est grand, il y a Satan et l'homme qui ont introduit le péché dans l'humanité. Et ce péché a eu un pouvoir dévastateur qui ruinait tout ce que Dieu avait fait. D'ailleurs, on voit combien les hommes se tuent entre eux. Combien il y a de maladies, malgré les découvertes médicales, il y a les maladies qui apparaissent et qui font souffrir les humains. On a entendu 3 personnes qui sont mortes au mois de janvier, c'était toujours de cancer, malgré l'évolution technologique. Donc tout ça vient du péché, la destruction vient du péché. Et même si Jésus faisait des miracles, le péché continue à agir. Le péché n'était pas vaincu par les miracles. Jésus a multiplié le pain un jour, mais le lendemain, les gens allaient avoir toujours faim. Il a calmé la tempête un jour, mais quelques mois plus tard, il y aurait eu encore d'autres tempêtes. Parce que le vrai ennemi, c'est la mort et le péché. Le péché produit la mort. C'est ça, le vrai ennemi, c'est le péché qui a apporté la destruction dans l'humanité. Jésus a fait des miracles, il a montré la grandeur de Dieu. Dieu a fait la création, il a montré sa grandeur. Mais la création a été polluée par le mal, par le péché. Donc malgré la grandeur de Dieu, il y a d'autres souffrances. Il y a des guerres, des maladies, la vieillesse, la déchéance physique. Tout ça amène les gens. Et puis il y a les envies incontrôlées. Tout ça amène les gens à douter parfois de l'existence de Dieu en voyant les souffrances, les maux de la terre. Mais tout ça vient du péché. Donc le Seigneur, il a fait les miracles pour attirer l'attention de tout le monde, dire, je suis le Fils de Dieu, écoutez-moi. Mais ce n'est pas par les miracles qu'il allait obtenir sa grande victoire, qui est la victoire sur le péché. Donc, il lui restait à faire un dernier miracle qui allait être sa grande victoire sur le mal, sur le péché, qui est la principale source de destruction ici sur la terre. Et on lui dit, dans l'esprit toujours de puissance, on mesure la qualité d'un homme par sa puissance. On lui dit, fais-nous encore un miracle. Au verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Amuse-nous encore avec un miracle. Jésus a dit, non, ce n'est pas vous qui allez piloter les miracles. Ce n'est pas vous qui allez me commander de faire des miracles. C'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, il leur dit ceci. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Il dit, vous demandez un miracle, mais moi je vais vous faire qu'un seul miracle. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc Jésus dit ceci. Il dit, je ne veux pas vous faire un miracle de plus pour vous épater. Je veux faire maintenant le dernier miracle, le plus grand. Je veux me laisser crucifier et je veux me laisser tuer, mais le troisième jour, je vais récupérer ma vie. C'est ça le plus grand miracle du Seigneur, parce que c'est le miracle qui triomphe de l'élément destructeur de la terre, le péché, le mal. C'est le péché et le mal qui détruit. Maintenant, qui détruisent la terre, les humains et tout ce qu'il y a dedans. Maintenant, le Seigneur allait vaincre le péché et le mal. Et cette victoire allait se manifester par la résurrection. Mais le combat, lui, ce n'est pas la résurrection. La résurrection n'est qu'une conséquence. Mais le combat, le miracle, c'était la victoire sur le mal et le mal, le péché et la mort. C'était ça le combat. Prendre le péché des humains sur lui. Prendre le péché des humains sur lui. Supporter le mal fait par les humains contre lui. Et ensuite, engloutir la mort. Entrer dans la mort pour vaincre la mort. C'était ça le dernier miracle. Et ce miracle allait être visible par la résurrection. Donc la résurrection est le témoignage que le grand miracle a eu lieu. Le mal a été vaincu, le péché a été expié. Donc Dieu nous a pardonné. Jésus a réussi son travail de prendre le péché sur lui. C'est le plus grand travail. Il est écrit dans Ésaïe 53. Nous commençons maintenant à parler de son miracle, de sa grandeur. Pardon, excusez-moi, lisons d'abord Jean 12. Jean 12, où lui-même explique que la croix, la souffrance qu'il a amené à la croix, c'est ça sa gloire. Jean chapitre 12. Il est écrit au verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïde en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et pour expliquer ça, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il explique que l'heure est arrivée où il doit être glorifié. C'est-à-dire, il va manifester sa grandeur. Mais comment? En se laissant semer dans la terre comme un grain de blé. Donc en se laissant crucifier, enterrer, c'est là la gloire du Seigneur. C'est là qu'il accomplit son plus grand acte sur la terre. C'est là qu'il accomplit, il manifeste clairement la supériorité de Dieu, la grandeur de Dieu. Vous savez, parce que Satan aussi peut faire des miracles. Même s'il ne peut pas créer, il peut faire des miracles. Et donc, la grande supériorité du Seigneur va être manifestée au moment où il accepte de prendre le péché des autres. C'est par l'amour qu'il entre dans la supériorité totale vis-à-vis du diable. Il prend le péché des autres, il souffre pour les autres sans répondre. C'est ça la grande capacité, la grande victoire du Seigneur. Et nous lisons dans Ésaïe 53. Cela a été déjà prophétisé dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Donc préparons-nous à lire beaucoup aujourd'hui. Ésaïe 53. Il est écrit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce passage nous dit que Jésus, s'il a été brisé, s'il a souffert, c'est à cause de nos péchés. Ça, c'est sa grande force. Comment un innocent va prendre le péché des autres? Ça, c'est ce qui fait la différence entre Satan et Dieu. Les gens veulent nous donner la mentalité de ce monde où on manifeste sa gloire et sa puissance par le nombre de voitures, par le nombre de maisons, par le nombre de vêtements, par le succès humain. Mais il nous est dit, on nous montre la gloire véritable. La gloire véritable de Jésus, c'est qu'il a été capable, alors qu'il était innocent, de prendre le péché des coupables. Qui aujourd'hui veut prendre le péché d'un coupable? N'est-ce pas, dans les couples, on cherche toujours à avoir raison? Qui aujourd'hui peut décide de dire, bon, c'est lui qui a péché, mais je prends ça à mon compte? Ça, c'est la gloire de Jésus. Il a dit, l'heure est arrivée pour que je sois glorifié. Les miracles ont montré sa grandeur, mais la croix, la souffrance de la croix, a montré non seulement sa grandeur, sa puissance, mais sa supériorité totale, victoire totale, victoire écrasante, capable de prendre le péché des autres, alors que lui, il est innocent. Il est écrit, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est écrit, bien-aimé. Chacun faisait sa volonté. Beaucoup de gens pensent que le péché, c'est seulement voler, c'est mentir. C'est non seulement voler, non seulement mentir, non seulement être impoli, mais le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Qui dirige ta vie? Est-ce que c'est toi ou c'est Dieu? Le péché, ben c'est toi-même. Quand toi-même tu décides pour ta vie, c'est le péché. C'est Dieu qui doit diriger notre vie. C'est pourquoi il est écrit, nous étions errants comme des brebis. Chacun dirigeait sa vie. Chacun suivait sa propre voie. Alors que c'est Dieu qui nous a créés. Quelle ingratitude tous ces gens-là qui ouvrent la bouche pour dire Dieu n'existe pas. Alors qu'ils ne savent pas eux-mêmes d'où ils viennent. Quelle ingratitude. Quel orgueil. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Ils osent dire Dieu n'existe pas. C'est la même chose. Tu te lèves le matin et tu dis, je veux faire ceci, je veux faire cela, je. Mais qui c'est qui te donne le souffle de vie? Il y a plein d'humains qui meurent chaque jour. Pourquoi toi tu vis alors? C'est que quelqu'un a décidé de te laisser vivre. Donc quand chacun suit sa propre voie, c'est de la rébellion. C'est écrit au verset 7, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas fait de procès. Maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Jésus a souffert d'angoisse, c'est écrit là. Nous pensons que quand nous, les angoisses nous arrivent, ce n'est pas normal en tant que chrétien. Mais Jésus a souffert aussi d'angoisse. C'est possible. Le poids du mal peut être fort et produire en nous des angoisses. Jésus a souffert de cela. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à Dieu, à l'Éternel, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc ce verset 10 nous parle de la résurrection. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés des humains, il prolongera ses jours. Car la victoire, c'est justement ce sacrifice-là. La grandeur de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Il se donne pour les coupables. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. À cause du travail de son âme. Aujourd'hui, on veut nous faire faire le travail du corps. Pendant un temps, Jésus a fait le travail du corps. Il a marché, il a prêché, il a fait des miracles, des choses visibles, des choses qui bougent. Mais le grand travail, le grand miracle, c'était le travail de l'âme. C'est-à-dire ton âme est convaincue que tu as raison. Mais toi, tu dois prendre la faute des autres. Ton âme te dit, mais non, toi, tu as raison. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu souffres pour les autres. Jésus a beaucoup souffert dans son âme. Son âme a beaucoup lutté. On va lire ça. Mais il a dit, papa, que ta volonté s'accomplisse. Il fallait qu'il souffre. Et c'est son travail là, de son âme, qui a apporté la résurrection et qui nous a apporté le salut. Aujourd'hui, bien-aimés, l'enseignement, c'est que nous devons davantage nous concentrer sur le travail de l'âme. C'est bien de faire le travail avec le corps, prêcher, chanter, faire des miracles, prier pour les malades, il n'y a pas de souci. Mais le travail le plus important, la gloire de Dieu se manifeste au plus haut niveau dans le travail de l'âme. Quand tu sais te laisser écraser pour la gloire de Dieu, c'est ça le grand travail. C'est ça qui apporte les plus grandes victoires. C'est le travail de la prière. Il est écrit au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Et ce passage est inscrit dans les Écritures 700 ans avant que le Seigneur ne vienne. On voit comment Dieu avait déjà préparé ce plan depuis longtemps, préparé son travail depuis longtemps. Et nous revenons dans Matthieu au chapitre 26 pour lire en ce qui concerne le travail de l'âme du Seigneur. Pour lire en ce qui concerne la grandeur, pour lire tout ce qui concerne la grandeur du Seigneur. Sa grandeur a été manifestée. Matthieu 26. À partir du verset 26, Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Jésus voit son heure approcher et il fait le dernier repas avec les disciples. Il dit, « Voilà, mon corps va être livré pour vous. » Les gens sont habitués à ce que les champions gagnent en écrasant les autres. Mais là, le costaud, le champion, l'homme fort, va se laisser écraser. C'est ça la grandeur de Dieu. Je connais un chant dans une langue où on dit « L'homme fort est mort. » Voilà. Dans notre tête, quand on pense à l'homme fort, on pense à Samson qui pouvait casser les portails, briser les colonnes, tuer plusieurs personnes alors qu'il était tout seul. On pense à David. Mais là, Dieu nous présente un homme fort. Il est fort parce que quand on vient l'arrêter, on dit, est-ce que c'est toi? Les gens qui posent la question, ils tombent. À plusieurs reprises, on a voulu tuer Jésus. Mais à chaque fois, personne n'osait le toucher. C'est l'homme le plus fort, puissant. Il a dit à Pilate, j'ai une armée. Si je demandais à mon armée de venir, vous n'allez même pas tenir ici. Mais c'est l'homme fort maintenant qui va se laisser faire. C'est ça sa gloire. C'est ça sa puissance. C'est ça l'honneur de Dieu. C'est ça sa grandeur. Il dit, je vais me livrer pour vous maintenant. Et Pierre veut s'opposer. Vous dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Jésus dit, là, avant ça se passait comme des champions qui écrasent les autres, maintenant, ça doit se passer ainsi. Le champion doit être écrasé afin de prendre la place des coupables, de prendre la place des victimes. Et Jésus lui dit, Pierre, tu parles beaucoup. C'est un travail qui te dépasse. C'est un combat qui te dépasse. Tu crois que tu es fort, mais c'est un combat de l'âme. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu vas me renier. Bien-aimé, la guerre que nous avons sur terre, c'est une guerre de l'âme. Ce n'est pas une guerre du nombre. Beaucoup de gens se disent, bon, la pression augmente contre nous les chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'agglomérer en fédération. Comme ça, on est nombreux, nombreux, on peut lutter. On doit faire aussi des marches, mettre des pancartes et résister, lutter. Mais non! C'est un travail de l'âme. Et Pierre a dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Jésus a dit, ce n'est pas un combat physique. Ça n'a rien à voir avec le nombre. Ça n'a rien à voir avec la puissance physique de l'homme. C'est un combat spirituel, Pierre. C'est un niveau très élevé. C'est ce qui demande que je sois écrasé. Parce que le niveau de combat dépasse le niveau de l'homme. Et d'ailleurs, tu vas en payer les frais, Pierre. Tu vas comprendre que c'est un niveau qui dépasse le niveau de l'homme. C'est un niveau spirituel. Ça demande à s'humilier. Et comme toi, tu crois que c'est par la lutte humaine, tu vas me renier, tu vas te rendre compte que ta force humaine ne peut pas entrer dans ce combat-là. C'est ce qui s'est passé par la suite. Verset 35. Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose, mais nous connaissons la suite, ils avaient tous fui, sauf Jean. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, Pendant que je m'éloignerai pour prier, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Bien-aimé, le champion demande de l'aide. Nous avons des membres de famille qui sont forts dans certains domaines. Est-ce qu'ils nous demandent de l'aide? Combien de gens ne connaissons-nous pas? Ils veulent aller jusqu'au bout. Tu veux l'aider? Ah non, 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 non. Mais lui, l'homme le plus fort, le fort de fort, le puissant des puissants, il demande de l'aide. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas veiller avec moi? Quelle honte! Quelle honte! Aujourd'hui, beaucoup, même dans leur plus haute souffrance, ils ne veulent pas demander de l'aide. Parce qu'ils ne veulent pas se rabaisser. Alors que ils sont dépassés. Mais Jésus n'était pas dépassé. Mais c'était le rôle qu'on lui avait choisi. Il fallait qu'il se laisse faire. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'était pas dépassé, ça veut dire que, comme il avait dit à Pilate, s'il demandait à son armée d'intervenir, son armée va intervenir. Mais il ne devait pas faire intervenir son armée. Il ne devait pas faire intervenir sa force. On lui a dit, tu te laisses faire. Parce que tu dois prendre la place des coupables. Donc voilà, il dit, est-ce que vous pouvez rester un peu avec moi? Verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'était trop fort, très fort, et il a même eu envie d'arrêter le processus. Mais il a dit que ta volonté, Dieu, soit faite. Verset 39. Verset 40 plutôt. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur dit, c'est un combat spirituel. Ça va se remporter dans l'humilité, la prière. Ça va se remporter dans la guerre de l'âme. Ça ne va pas se remporter dans une logique physique, croyant que nous les chrétiens, il faut qu'on devienne des présidents, qu'on devienne de grands hommes d'affaires, c'est comme ça qu'on va révolutionner le monde, non? Le Seigneur s'est laissé faire. Lui qui était tout puissant, on l'a piétiné et il a demandé de l'aide. Vous savez, vous tous nous savons ce que je suis en train de dire. Demander de l'aide, ce n'est pas facile. Voilà. Mais quand on est le plus fort en plus, demander de l'aide, c'est la grande humiliation. Mais il a demandé de l'aide. Verset 42, il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il dit, « Ah, puisque c'est ça ta volonté, Seigneur, ben j'irai jusqu'au bout. » Verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, on dit qu'il a transpiré tellement d'angoisse qu'il y avait la sueur mélangée avec du sang qui sortait de son corps. Tellement ce qui allait arriver allait être dur pour lui. Oh, combien nous nous plaignons aujourd'hui quand on est injustement traité à cause de l'évangile, quand on est injustement critiqué à cause de l'évangile. On se plaint, On est tout le temps en train de dire, Seigneur, que ta justice s'accomplisse. Non. Le Seigneur n'a pas réclamé que ta justice, non. Il savait que c'est comme ça qu'on gagne dans le monde spirituel. On gagne en se laissant écraser. Pas en écrasant. C'est ça, le combat spirituel. Ce n'est pas facile parce que ça produit la mort de l'homme. La mort de la personne. C'est comme si tu n'étais plus toi-même. Tu entends autour de toi les rires des humains et les rires des démons. Te dira, voilà, tu es faible maintenant, on t'a eu. Tu es critiqué, tu es humilié. Tu as échoué. Et on veut réagir. Mais le Seigneur dit, suivez mon exemple. Laissez faire. Suivez mon exemple. Il nous montre l'exemple. Il dit, c'est comme ça que le plus grand, la grandeur de Dieu, c'est, on est en train, bien aimé, de lire la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on est en train de lire, sa supériorité, sa grandeur. Verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, maître !» Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jésus, même à la dernière minute, il appelle Judas, « Mon ami !» Alors qu'il vient le trahir. Mais vous savez, quelle est la victoire de Jésus? Il ne fallait pas que son cœur, malgré tout ce qu'il vivait, il fallait que son cœur reste 100% pur, 100% amour. Il ne fallait pas qu'il y ait en lui une logique de se venger, même un petit pourcent. Parce que s'il y avait eu un tout petit peu, nous, on ne serait pas sauvés. Il fallait que Jésus reste fils de Dieu. Donc malgré tout ce qu'il vit là, il ne fallait même pas qu'il y ait un murmure. C'est pourquoi jusqu'au bout, il dit mon ami, parce qu'il fallait qu'il reste amour. C'est ça sa victoire, c'est ça sa grandeur. Et il dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Bien-aimé, verset 53, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Un des amis de Jésus coupe l'oreille des gens qui venaient l'arrêter. Jésus dit, mais non, cette manière de faire là, c'est une manière qui donnera la défaite. Il dit, celui qui utilise l'épée perdra aussi par ces moyens là. Jésus est en train de nous dire qu'à chaque fois qu'on veut utiliser les moyens humains, les moyens de force, les moyens qui épatent, donc au fait, il y a des gens qui croient qu'ils obtiendront le succès par les miracles. Maintenant, quand il fait les miracles, il se rend compte qu'il y en a un qui fait plus que lui et donc il va aller encore chercher pour le dépasser et finalement, c'est là qu'il va faire des contrats avec le diable, il tombe. Donc, on croit que c'est ces moyens-là humains, par l'argent, par la popularité, par les félicitations, c'est comme ça que j'ai réussi. Mais Jésus te dit, mais ces moyens-là sont des moyens humains. Ça finira par une défaite. Il dit, celui qui utilise l'épée périra par ça. Ce qui pense être son moyen de victoire, c'est ce moyen-là qui le perdra. Hitler a commencé la guerre. C'était facile quand il triomphait de l'Allemagne, et de la France, de la Belgique, de la Hollande. C'est comme s'il marchait seulement. C'était facile quand il fallait prendre l'Autriche, la Pologne. Mais les mêmes moyens que lui, il a utilisés, il y a les États-Unis d'Amérique qui ont utilisé les mêmes moyens. Une armée massive avec beaucoup d'appareils. Et il a perdu la guerre. Il s'est suicidé. Jésus dit, ce n'est pas comme ça. En répondant au mal par le mal. Ça, c'est le système du monde. C'est le système du diable. Si vous utilisez les mêmes moyens, vous serez vaincus. Il dit, est-ce que tu ne penses pas que moi, si je dis à mon père d'envoyer 12 légions d'anges, ils viennent me délivrer ici? Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'un seul ange a tué 180 000 hommes. Mais là, lui, il peut inviter 12 légions. Donc plus de 60 000. Il dit, mais si on doit m'envoyer 12 légions, ça, elles vont venir. Mais il faut que les choses se passent ainsi, parce que c'est ainsi que je peux remporter ma victoire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il dit, mais ce que je suis en train de vivre, bien-aimés, vous êtes témoins, nous avons lu ça dans Ésaïe. Ésaïe, ça a été écrit 700 avant que Jésus-Christ ne vienne. Ce que je suis en train de vivre, c'était déjà écrit comme ça. Pourquoi, bien-aimés? Le problème qui est là, c'est que Dieu a fait les cieux et la terre. Il a fait les humains. Et le péché est entré, a pollué tout ça. Maintenant, Dieu avait deux possibilités. Première possibilité, tout détruire. Et recommencer autre chose. Voilà. Tout détruire et recommencer autre chose. Mais, il est écrit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Le problème de Dieu, ça a été sa propre nature. C'est ça qui lui a fait problème. Il est amour. Il a aimé beaucoup ce qu'il avait fait. Vous vous souvenez, au début, il dit, ce qu'il fit était bon. Il a beaucoup aimé ça. Il ne se voyait pas détruire ça comme ça. Alors, il faut trouver une solution. Puisque Dieu ne pouvait non plus accepter le mal qui était dans sa création. Il fallait trouver une solution. La solution que Dieu a trouvée, c'était la résurrection. Tuer ce qu'il a fait, mais pas à jamais, pour que ça ressuscite. Mais pour cela, il fallait régler le problème du mal. La justice de Dieu réclamait que ce mal-là soit jugé et condamné, sinon il n'est pas bon. Parce que si Dieu est bon, il doit juger le mal. Or, le mal était déjà dans l'humanité, dans la création. Il fallait que Dieu juge ce mal. Et le seul jugement de Dieu, c'était la mort. C'est là que son fils Jésus, c'est là que là Jésus entre en scène. Il dit, moi je vais venir, je vais prendre le péché de l'humanité, je vais subir le mal, parce qu'il ne fallait pas non seulement prendre le péché, mais affronter le mal et vaincre le mal. C'est pourquoi nous sommes en train de lire la scène où Jésus est face au maximum du mal. Le maximum du mal, c'est là. C'est-à-dire que lui qui est tout puissant, général en chef des armées de Dieu, ben, il se laisse taper. Ça, c'est le maximum du mal. Il se laisse inférieur. C'est pourquoi il dit aux amis qui veulent en découdre physiquement, il dit non, ça doit se passer comme ça. Parce que Dieu a décidé de laisser la création mourir pour une résurrection. Mais cela n'est possible que si le jugement est parfait. Il faut que je sois jugé, il faut que je sois condamné parce que j'ai pris vos péchés. Laissez faire. Laissez faire. Et c'est là que, au verset 55, on lit la suite. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà ce que Jésus vit. J'ai oublié de parler d'un verset qu'on a lu au début, au verset 30, au 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est ce qu'on vient de voir. On vient de voir l'accomplissement. Les disciples, ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à ce que quand on va attraper Jésus, Jésus invoque son Dieu, son Père. Les anges sont envoyés et on massacre les attaquants et on est vainqueur. C'est comme ça qu'on s'imagine la victoire. Mais Jésus leur dit non, il faut laisser faire. Ils ne s'y attendaient pas. Pourtant, Jésus les a prévenus trois fois. Trois fois. Il leur a dit, c'est ce que je veux subir. Mais ça dépasse l'intelligence humaine. N'est-ce pas que ce que je suis en train de dire, nous connaissons presque tous ça. Mais est-ce qu'on veut bien pratiquer ça? Pour la plupart, non. Parce que l'intelligence humaine veut que la puissance soit manifestée en écrasant l'autre, en étant plus grand que l'autre, plus intelligent, en réussissant visiblement. C'est l'intelligence humaine, c'est la chair, comme on dit. Et quand les disciples voient que Jésus est arrêté, vraiment, c'est devenu sérieux. Parce que jusque-là, ils gardaient l'espoir que ça va changer. Mais quand ils voient que c'est vraiment qui, c'est comme ça, il est vraiment arrêté, ils s'enfuient. Je ne les condamne pas, parce que je ne sais pas ce que moi j'allais faire. Mais c'est pour nous dire qu'il a été une occasion de chute pour eux. Et il les avait prévenus, je vais vous surprendre. Bien-aimés, la marche avec le Seigneur, c'est comme ça. On pense que tout va bien, on chante, on mange, on prie, on demande un enfant, Dieu nous donne, on demande ceci, Dieu nous donne. Parfois, il y a des choses qui manquent, mais en gros, tout semble, tout va bien. Puis, il va venir une épreuve, une difficulté, des oppositions, des persécutions. C'est fait pour nous faire passer le chemin du Seigneur, qui est un chemin de souffrance, mais un chemin de victoire, un chemin de grandeur. Et ce jour-là, les disciples ont subi cela. Ils ont vu leur propre maître attrapé. Et nous, pendant qu'on passe ce genre de période, on a l'impression que quand on prie, il n'y a pas de réponse. On a l'impression que quand on prie, Dieu ne nous écoute pas. Et on commence à chercher quel péché on a commis encore. On devient comme un lapin qui s'agite à tout moment cherchant d'où vient l'ennemi. Quels sont mes péchés? Qu'est-ce que je... Voilà, on est là en agitation. Parce qu'on ne comprend pas que Dieu puisse rester silencieux. Mais là, oui. Dieu est resté silencieux parce que c'est le chemin de victoire. Et nous tous, nous sommes appelés à passer par là, par le combat de l'âme, à triompher par le combat de l'âme. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un que tu peux gifler, mais Dieu te dit, prie. Mais quand tu pries, les gens se moquent de toi. Il n'a su rien faire. Il ne fait que prier. Ah, le poltron. Mais toi, tu sais que Dieu est en action. C'est le travail de l'âme. C'est le travail de l'âme. Bien-aimés, nous vivons un temps difficile. Nous aurons besoin de ce travail-là parce que encore il y a quelques temps, deux chrétiens viennent d'être condamnés à payer environ 4 000 € d'amende parce qu'ils ont distribué des tracts « Je suis délivré de l'homosexualité ». Donc les temps vont devenir difficiles pour les chrétiens. Les chrétiens qui pensent vaincre par la force humaine, par beaucoup d'argent, par en étant nombreux, en faisant des articles, en cherchant eux aussi à passer à TF1 pour parler avec les gens qui pensent vaincre comme ça par la force, ils trahiront le Seigneur. Comme Pierre a cru qu'il pouvait vaincre en faisant comme les païens, en tuant, en utilisant l'épée, il a régné le Seigneur. Il n'a pas trahi, il a renié le Seigneur. Et les gens, les chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'il faut que Dieu nous donne beaucoup d'argent, comme ça on va rivaliser dans les tribunaux, on va rivaliser dans les chaînes de télévision, Ils se trompent parce que ce n'est pas ça la manière de faire du Seigneur. Le Seigneur, il agit quand on est écrasé. Voilà. Je déçois peut-être certaines personnes, mais c'est dans la parole. Et le Seigneur avait prévenu les autres, je vais vous décevoir ce soir. Je serai une occasion de chute pour vous. Donc je vais vous décevoir. Vous vous attendez à certaines choses, mais vous allez vivre le contraire. Vous vous attendez à ce que les anges viennent m'accompagner, qu'on prenne Israël, qu'on prenne... Là, vous allez vivre le contraire. Mais il faut que ça se passe ainsi, parce que c'est comme ça qu'on peut vaincre les forces des ténèbres. Il faut que je sois vainqueur du péché et du mal. Ensuite, je serai vainqueur de la mort. Et là, Jésus s'est fait sérieusement arrêter. Les disciples fuient, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble ?» Il répondit, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voilà, bien-aimé, la souffrance du Fils de l'homme, homme de douleur, comme c'est écrit dans Ésaïe. Est-ce que on va lire tout ce qu'on va lire? Je préfère en parler avant d'oublier, mais nous n'allons nous voir nulle part. Jésus-Christ condamnait les gens qui l'ont abandonné. Il ne les a pas condamnés. Il n'a pas condamné ses disciples. Il n'a pas condamné les gens qui sont en train de lui cracher dessus. Il n'a pas fait. S'il avait fait ça une seule part, donc rien que 1%, ça allait annuler notre salut. Et il était conscient de ça. Il fallait qu'il reste pur. Bien-aimé, c'est le travail que Dieu nous demande. Laissons Dieu vaincre par le sacrifice, par la prière, par la simplicité. Laissons Dieu vaincre. Pendant le temps que tout cela se passe, on a l'impression qu'on est vaincu, on est battu. Mais non, quand on sait que c'est sa manière de faire, on ne doit plus être dans cet esprit-là de défaite. On sait que c'est ainsi. Jésus a dit à ses disciples, il faut laisser, je peux inverser la tendance. Mais non, notre Père a dit que c'est comme ça qu'on va gagner. Alors on obéit. Et finalement, on arrive au verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà, tous ceux qui veulent se battre par leur propre force finiront dans le cas de Pierre. Ils se rendront compte que nous avons affaire à des forces spirituelles qui dépassent les forces de l'homme. Nous avons affaire au diable avec une armée de démons, accompagnée d'une armée de démons. Et on ne peut pas les combattre par sa propre force. Et Pierre a été déstabilisé juste par une femme. Ce n'était même pas des soldats, une femme. C'est pour vous dire que derrière cette femme, il y avait une grande puissance démoniaque. Et nous ne devons pas les sous-estimer. Nous devons les prendre au sérieux. C'est pourquoi un seul peut le vaincre, c'est notre Seigneur. Nous nous sommes appelés à vraiment chercher à être près de notre Seigneur. C'est là que nous pouvons remporter la victoire et à suivre son exemple. Pierre a pleuré amèrement et il fallait qu'il connaisse cette expérience-là pour grandir et plus tard devenir un responsable dans l'œuvre du Seigneur. Verset chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme me l'avait ordonné, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Tout ce que nous sommes en train de lire est déjà dans les Écritures. Même cet achat du champ. Et le Seigneur, lui, n'a pas condamné Judas, mais l'Esprit de Dieu et les remords de Judas ont agi. Judas lui-même a compris qu'il avait fait une erreur. Malheureusement, il n'a pas voulu changer. Il a voulu rester ce qu'il était et il a fini par se pendre. Mais le Seigneur Jésus, lui, n'a rien fait. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Barabbas qui était un terroriste, un révolutionnaire, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Le peuple se montre méchant avec le Seigneur qui a fait tant de bien, qui a fait des miracles, qui les a guéris, qui leur a donné du pain. Mais Jésus ne les condamne pas. Jésus se laisse faire. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui. Prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Jésus malmené par tout le monde. Malmené par tout le monde. La différence entre nous et lui, c'est que lui, il savait qu'il était parfait. Il était fils de Dieu. Il n'avait rien à se reprocher. Mais les choses devaient se passer ainsi. C'est ça sa grandeur, c'est ça sa gloire. Et pourquoi il y a un chant qui dit « De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. » Nous comprenons pourquoi Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. » Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a dit « À mon nom, vous chasserez les démons. » Quel démon peut résister après que Jésus les ait vaincus comme ça? Parce que Jésus, malgré tout le mal qu'on lui fait là, vous voyez tout ce qui se passe là. Bien-aimés, pour nous, c'est une lecture. Mais pour Jésus, le vivait. Nous sommes en train de lire. Lui, le vivait. Les gens que tu as aidés. Les gens. Quand le juge est convaincu que tu es innocent. Vous vous imaginez quel va être votre regard? Quelle va être votre attitude? Vous êtes au tribunal. Le juge dit, on va faire une suspension de séance. Et dans la suspension de séance, il te dit, mon ami, je sais que tu es innocent, mais tu vois, c'est compliqué pour moi ici. Je serai obligé de te laisser. Alors, et vous voyez, ce juge qui vous a dit en cachette qu'il était que vous étiez innocent, et maintenant en public, il vous laisse entre les mains de vos ennemis. Quelle va être votre... Quelle colère vous n'allez pas avoir? Où les gens se comportent comme des spectateurs, des gens aussi qui ont bien compris, on sait, parce qu'il y a des gens qui ont bien compris qui tu es, mais quand ils se retrouvent avec d'autres personnes, ils font semblant comme s'ils ne savent pas qui tu es. Et ils parlent comme eux aussi. Parce que, influencés par la puissance du nombre. Quand on sait tout ça, bien-aimé, est-ce que vous savez comment ça détruit le cœur? Mais Jésus a laissé faire parce qu'il s'est dit, ça doit se passer ainsi. Je nous exhorte, bien-aimés, à suivre l'exemple de notre Seigneur. Malgré tout ce micmac-là, que nous on lit, mais lui le vivait. Et quand tu vis ça, tu dis, mais ce n'est pas possible. Donc ces gens-là, que j'ai aidés, maintenant ils sont comme des spectateurs d'un match de boxe. Ils attendent qui va gagner pour supporter celui qui va gagner. Donc le peuple était là en train de voir entre Jésus et le pharisien qui va gagner. Et on va être du côté du plus fort. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Quand on est fort, ils sont avec nous. Mais quand maintenant ils nous sentent qu'on n'est plus, on semble ne pas être fort comme on l'était avant, ils regardent maintenant, attendant la trajectoire que va prendre le combat pour savoir qui ils vont supporter. Maintenant, quand tu vois tout ça, et qu'on est faible comme nous, on est déstabilisé, ça fait mal, c'est tout. Mais imagine que tu vois tout ça, mais tu es tout puissant. Tu sais qu'après, tu peux revenir condamner tous ces gens-là. Mais Jésus ne l'a pas fait. Parce que ça devait se passer ainsi. Il ne s'est pas dit, attendez, vous allez voir quand je vais ressusciter, vous tous là. Non. Parce qu'il ne fallait pas qu'il ait une petite pensée de ce genre-là. Il suffisait qu'il ait une petite pensée, comme je suis en train de dire là, notre salut est annulé. Il fallait qu'il reste parfait. Un agneau muet. Muet par sa bouche et dans son cœur aussi. Jésus était muet dans le cœur. Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un muet dans son cœur? Parce que la moindre pensée de vengeance annulait tout. Donc il restait muet et par sa bouche et dans son cœur. Il fallait qu'il regarde. Faites tout ce que vous faites, vous avez à faire. Ma vie est entre les mains de mon Père. C'est tout. C'est tout ce qu'il se disait. Dans les psaumes, c'est écrit, je voyais constamment le Seigneur à ma droite. C'est un verset qui concerne Jésus. Donc lui, il se concentrait sur son Père, constamment à sa droite. Son Père était constamment à sa droite. Un point, c'est tout. C'est ça qui importait. Jusqu'à ce que même le Père qui était à la droite l'abandonne à la croix. Parce qu'il avait, c'était le maximum, les péchés des humains étaient là. Les péchés des humains étaient sur lui. Verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli !» Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Amen. Le salut est accompli maintenant. Donc dans le livre de Jean, c'est écrit dans Jean 19, 30. Là, en ce moment-là, il a dit, « Tout est accompli. » Ça y est. Je suis resté parfait tout en subissant le mal du monde, tout en subissant l'oppression du monde, tout en prenant le péché des hommes, moi je suis resté parfait. Le péché est lavé. Le voile qui séparait le lieu très saint, le lieu saint a été déchiré. Maintenant on peut entrer dans la présence de Dieu. Tout est accompli. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Nous lisons au chapitre 28. Après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez rapidement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Bien-aimé, l'ange vient, il roule la pierre, mais Jésus n'est plus dans le tombeau. Parce que par sa résurrection, il peut traverser les murs. Quand l'ange roule la pierre, le tombeau est vide. Ce que Jésus a accompli à la croix a donné une nouvelle création. La création des ressuscités. Maintenant, c'est ce que nous attendons. Nous attendons la manifestation de la gloire de Dieu. Mais sur terre, il nous est demandé de marcher dans les mêmes pas que notre Seigneur Jésus, sur les pas du Seigneur, dans un esprit d'humilité, de sacrifice. Car c'est ainsi que la grandeur de Dieu a été manifestée. Dieu a été grand parce qu'il a été plus fort que le mal, plus fort que la mort, parce qu'il a été plus fort que le mal. L'apôtre Pierre dit dans 1 Corinthiens 15, « Ô mort, où est ta victoire ?» Où est ton aiguillon? Ton aiguillon, c'était le péché, mais Jésus a englouti le péché. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est pourquoi quiconque parle au nom du Seigneur Jésus est dans la victoire. Et mais il ne suffit pas de parler en son nom, il fait vivre comme lui maintenant désormais. Les temps sont difficiles. Et nous clôturons avec Hébreux 9, 28, qui nous dit ceci. Jésus, il a souffert comme ça parce qu'il avait pris nos péchés. Il a souffert parce qu'il devait se laisser faire pour engloutir le mal. Vous savez, c'est quelqu'un qui prend carrément les microbes, il engloutit. Maintenant, il te dit, je ne suis pas mort malgré tout. Les microbes, je les ai engloutis. Donc, vous êtes guéri parce que j'ai pris vos microbes. Vous n'avez plus de microbes. Il devait être petit à cause de ça. Mais maintenant, il n'est plus petit. Maintenant, il est tout puissant. Et c'est lui que nous attendons. Malgré toute cette impression que le nouvel ordre mondial nous donne une impression de toute puissance, il contrôle tout, les francs-maçons et les autres, ils contrôlent tout, mais c'est faux, parce que Jésus ne reviendra plus en faible comme ça. Nous lisons dans Hébreux 9, 28. Il est écrit au verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Jésus qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Amen. Alors donc nous sommes priés de passer par les mêmes chemins que le Seigneur en attendant notre salut. Jésus est passé par ce chemin-là en attendant sa résurrection. Nous sommes priés de vivre dans le travail de l'âme comme le Seigneur. Et cela se traduit par une grande confiance faite à la prière plus qu'aux actions. C'est plus la prière, plus un travail intérieur, un travail de brisement, un travail où nous sommes en communion avec le Seigneur, on lui parle. Parfois on a des angoisses, parfois on est renié, parfois on est trahi, parfois on est injustement traité. Voilà, on sait que le juge connaît la vérité, mais il fait autre chose. Mais c'est ce travail-là que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Nous voulons sauver l'humanité. L'humanité est ingrate. Le Seigneur nous demande d'être comme lui, de continuer à aimer l'humanité et de continuer à prier, de continuer à faire notre part. Il y aura des oppositions. Continuons à faire notre part. Laissons-nous être brisés comme lui s'est laissé faire. Laissons-le nous travailler. Bref, bien-aimés, soyons grands comme notre Seigneur a été grand. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. La manifestation de la grandeur du Seigneur, ça a été la croix. Passons par le même chemin. C'est là que nous sommes vraiment supérieurs. nous sommes fils de notre Père qui est au ciel. Ne donnons pas des ordres à Dieu. Je ne veux pas telle épreuve, je ne veux pas ceci. Disons plutôt à Dieu à chaque fois de nous donner la force. Jésus a prié 3 fois. Il a demandé de l'aide. Un ange est venu le soutenir. Faisons cela. Ne choisissons pas les épreuves, mais demandons à chaque fois la force au Seigneur. Toujours, Seigneur, je veux voir clair. Mais en attendant, Jésus va se manifester. En attendant que Jésus se manifeste avec gloire pour nous délivrer totalement, nous pouvons sur terre marcher dans une victoire totale en suivant le même chemin et en expérimentant chaque jour le bénéfice de l'œuvre de la croix à travers les miracles, les guérisons, la conversion des âmes, à travers le fait de chasser les démons. Le Seigneur nous donnera une victoire totale, mais chacune de ces victoires passeront en général par un travail de l'âme, un travail dans la prière, un travail dans l'humilité, un travail dans le